Bonjour ou rebonjour tout le monde. Bienvenue donc à cette conférence sur les années néo. Je vais commencer déjà par faire un petit préambule avant qu'on entame les hostilités. S'il y a quelques décennies, on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais là où je suis, entouré de François Truchot sur ma gauche et de Jean-Michel Nicolet sur ma droite et que je serais en train de les présenter pour une conférence néo, je ne l'aurais jamais cru. C'est un immense honneur pour moi de les avoir à mes côtés. Je l'ai dit tout à l'heure et c'est vraiment sincère. Aujourd'hui, je suis un gamin. Je suis avec deux de mes idoles. Voilà. Donc, j'échange ma place contre rien au monde. Ce sont deux individus pour moi extraordinaires qui, par bien des façons, ont changé ma vie. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces deux individus. Jean-Michel, tout d'abord, parce qu'il y avait ces couvertures pour les néos. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir avoir chez moi pendant quelques jours les couvertures originales d'une vingtaine de volumes de la collection Néo. Et j'ai passé un temps, j'ai eu un temps extraordinaire avec moi-même où je regardais ces œuvres d'art. Et chacune était alors déjà magnifique. La différence entre les versions imprimées et les versions originales, elle est juste incroyable. Il y a des couleurs formidables. Et chacune de ces couvertures est une Madeleine de Proust pour moi. Ça veut dire que je peux me rappeler pour la plupart d'entre elles, le jour où j'ai acheté le Howard en question, quand je l'ai lu, j'en parlais avec Jean-Michel il y a quelques jours quand on s'est vu, les couvertures qu'il a pu faire pour les Denis Whitley, pour pas mal de choses, pour la collection Néo en général. Me transporter littéralement. Combien de livres de la collection de Néo j'ai acheté pour être déçu ensuite en lisant le contenu parce que la couverture était juste géniale et en le lisant je dis bon, ok, mais c'est pas grave. Voilà, c'est grâce à la couverture de Jean-Michel que j'ai lu Denis Whitley, que je ne connaissais pas, mais les deux couvertures qu'il a faites pour Les Vierges de Satan, je les ai trouvées extraordinaires. Je savais qu'il fallait que j'aime ce livre. Donc voilà, et il a illustré beaucoup de Howard, chez Néo évidemment, chez Lattès. Il y a très très peu d'illustrateurs pour lesquels je suis heureux en termes de dépiction de Conan. Le Conan de Jean-Michel, en particulier la couverture du deuxième, le Cimérien avec la Reine de la Côte Noire, du premier volume, font partie de mes représentations favorites de Conan. Bref, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour moi. François Truchot, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? François Truchot, la première fois que je l'ai appelé, c'était il y a plus de 30 ans. À l'époque, j'animais une émission de radio amateur. Et donc, on avait, qui s'appelait Les Grands Anciens, déjà. Et on critiquait des bouquins de fantastique. On a passé tout le catalogue Néo, on avait un partenariat avec Hélène Oswald qui à l'époque nous envoyait un service de presse et donc on critiquait tous les Néo qui sortaient, etc. Donc elle nous envoyait ses livres, on avait des fois des avant-premières, juste comme ça. Et un jour, il y a quasiment 30 ans, on a conçu l'idée de faire une spéciale Robert Howard. J'ai retrouvé l'affiche dans mes archives là, cette semaine, ça m'a renvoyé très très longtemps en arrière. Et on a fait une émission qui a duré 4 heures, dont j'ai encore l'enregistrement et je ne vous le passerai pas, parce qu'il est juste compromettant pour moi. Et donc on avait eu cette idée folle de dire pourquoi est-ce qu'on n'interviewerait pas François Truchot. Ah ouais, super idée. Et donc maintenant, c'est qui est-ce qu'il appelle? Parce que appeler François Truchot, c'était appeler Dieu. Mais il n'y a pas d'autre terme. Le monsieur qui traduisait Howard, à l'époque j'étais aussi très très branché Masterton, c'était juste impossible pour moi. Et je me rappelle très bien de ce coup de fil, donc c'était avant les portables et tout ça, hein. On était allé au studio d'enregistrement de la radio et on a fait le numéro et il a décroché. Et là c'était très très dur. C'était comment est-ce qu'on parle à un être pareil? Comment est-ce qu'on parle à une divinité? Comment est-ce qu'on parle à quelqu'un qui tous les deux mois nous apporte son volume Howard? C'était vraiment quelque chose. Et j'ai un souvenir hyper ému de cette interview, qu'on a un peu massacré après dans l'émission en faisant des remontages, mais bref. Et ça a été un moment extraordinaire en ce qui me concerne. Deux, trois ans plus tard, je suis rentré, quand j'étais à l'université, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur Howard. j'ai besoin de partir au Texas, de contacter Glenn Nord. Et François m'a dit, mais attends, tu écris à Glenn Nord de ma part et tu verras, ça se passe très très bien. J'ai écrit à Glenn Nord de la part de François et Glenn Nord m'a répondu. Et là, c'était, encore une fois, il m'avait permis de faire quelque chose d'extraordinaire. 2 ans plus tard, j'allais à une convention aux États-Unis et il y avait Robert Bloch qui était l'invité d'honneur. Et j'en parle à François, il me dit, mais attends, il n'y a pas de problème, tu écris à Robert Bloch de ma part et il te rencontrera. Donc j'ai écrit une lettre à Robert Bloch. 10 jours après, je reçois une réponse de Robert Bloch. Donc j'ai une lettre de Robert Bloch. Il me dit, Monsieur Louinet, ben, c'est super. Je ne sais plus exactement ce qu'il me disait, mais écoutez, la convention aura lieu de temps en temps. Il y aura beaucoup de gens. Ça serait bien qu'on se retrouve à la fin de la convention, le dimanche soir. Dînons ensemble. Merci François. Donc j'ai eu l'occasion de passer un dîner, une soirée entière en tête-à-tête avec un ami de Limoges qui m'accompagnait. On a dîné avec Robert Bloch. Et 2 ans plus tôt, la première fois que je suis parti au Texas, donc à l'époque j'étais étudiant et j'avais pas un centime. Et il fallait que je monte à Paris, parce que j'habitais à Limoges. Donc, et François qui me dit, bah, tu passes à la maison et tu dors chez moi et tu pars à Cross Plains le lendemain. Et ce jour-là, donc j'ai passé la soirée avec François. Il m'a dédicacé un exemplaire du Pacte Noir juste avant le départ. Voilà. Ben, François Truchot, c'est ça, c'est énormément de choses. C'est donc un honneur énorme pour moi d'avoir François à ma gauche et Jean-Michel à ma droite. On va parler des années Néo parce que c'est pour beaucoup d'entre nous le travail qui a été fait pendant ces de 79 à 90 environ, sur, on va dire, quelques années, a été extraordinaire. Il y a eu énormément de choses. Et sur Howard, bah, ça a été vraiment le point de départ de beaucoup de choses. C'est une très très longue introduction, je m'en excuse, mais voilà, je pensais que ça méritait vraiment que d'être dit. Et donc, merci à tous les deux. On va commencer par peut-être François, est-ce que tu peux nous parler du début des éditions Oswald? Comment est-ce que tout ça c'est venu? Comment ça a été créé? Hélène Oswald, Jean-Pierre, etc. Et je vais essayer de beaucoup moins parler maintenant.
Oui, mais ça s'est fait très rapidement, c'est en 78. Je reçois un coup de fil d'Hélène et Pierre-Jean Oswald qui dit voilà, on vient de créer les nouvelles éditions Oswald et on voudrait publier du Howard. Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Alors je dis ah ben oui, d'accord, alors je vais les voir et je leur apportais mon projet que je portais depuis des années, le Pacte Noir. Et ils ont lu le projet et j'ai dit bon, ben d'accord, pas de problème. Et donc j'ai commencé à le traduire et c'est sorti en 79. Donc, et c'était le deuxième numéro de la collection Fantastique. Donc, ça s'est fait très, très facilement, quoi. Et en même temps, ils m'ont demandé est-ce que vous connaissez un illustrateur? Parce qu'on cherche un illustrateur pour les couvertures, on n'a personne. J'ai tout de suite pensé à Jean-Michel. Je lui ai dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, je le connais très bien, ce qu'il fait est fabuleux. Donc, ils l'ont contacté. Puis, c'est comme ça que l'aventure Néo a commencé pour nous deux.
Oui, je rajouterais quand même, c'est grâce à François qui m'a fait rencontrer la maison Néo. Mais on se connaissait au préalable par l'intermédiaire de Philippe Drouillet et on fréquentait généreusement ses soirées, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, Philippe Drouillet réunissait un certain nombre de personnes. Et c'était fortement arrosé, c'était très sympathique, c'était très bien. Et donc, quand François m'a appelé, je suis allé voir la maison Néo. Et ils m'ont dit, bon, ben voilà, on ne sait pas bien ce qu'on va faire, on ne sait pas si la collection va durer, va pas durer, mais on va tenter une collection. À ce moment-là, j'ai fait la première couverture, Abraham mérite, cette pas vers Satan. Et puis, il y avait le pacte noir après, enfin, ça s'est fait très vite. Et j'avais décidé de construire la couverture sur un processus, les couvertures sur un processus géométrique. C'est-à-dire, c'est toujours construit sur 3 colonnes. Et ce jeu de verticalité, je me suis dit, plutôt que de trouver un système graphique quelconque, avec leur graphiste, j'ai conçu ces 3 colonnes, et en général, Ça a fonctionné, j'ai dit au numéro 100, j'arrêterai, je ferai autre chose, je chercherai autre chose. Et puis au numéro 100, je n'ai pas arrêté. J'ai continué jusqu'au bout, ce qui fait qu'il y a 200 et quelques couvertures, et qui sont toutes faites sur ce même principe. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça a commencé. Et je dois dire qu'on a passé très bon moment, parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut souligner, c'est que la maison Néo a eu des difficultés financières à différentes périodes, mais que personnellement, j'ai toujours été payé. Et ça, c'est quand même très important, parce que chez les éditeurs, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'ai eu pas mal de... parce que j'ai pas travaillé que chez Néo. Il faut bien savoir que c'est par Métal Hurlant que tout a commencé. Donc j'ai fait des couvertures à Métal Hurlant, et j'ai fait surtout un bouquin qui était un bouquin sur le diable. Et ce livre sur le diable a convaincu la maison Néo grâce à François. Mais auparavant, je ne faisais pas ça du tout. Je travaillais à Lui et Playboy, donc, ce qui est très différent, et Gallimard pour les romans classiques. Donc le fantastique était une de mes passions. Et en particulier sur le plan littéraire, j'étais grand amateur de littérature. J'avais presque tous les marabouts dans lesquels j'ai découvert Jean Rey, etc. Puis après, j'ai cherché des éditions originales, évidemment. Et donc, il y avait pas mal de bouquins que j'avais déjà lus chez Néo. Donc, ça m'évitait de les relire, bien sûr. Mais je dois dire, de plus, que j'ai toujours lu tous les livres dont j'ai fait les couvertures, quelle que soit la maison d'édition, et j'y tiens beaucoup, parce qu'autrement on fait des contresens phénoménaux. Donc voilà.
Bon, je vais repasser la parole, la suite. Hein, c'est...
Alors, comment tu avais rencontré Jean-Pierre et Nosvan?
J'ai dit, un jour ils m'ont appelé.
Comme ça.
Et oui, ils m'ont dit, bon, ben, voilà, on fonde une nouvelle maison d'édition. Et on voudrait publier, sortir du Howard, est-ce que vous savez quelque chose? Donc je pense qu'ils avaient dû lire mon introduction à l'homme noir au masque fantastique, et puis peut-être l'écho des savanes spécial USA. Je pense que c'est comme ça. Donc, et puis ça s'est fait vraiment très, très naturellement. Et ils m'ont dit, bon, bah, on veut publier le Howard, est-ce que vous avez quelque chose? Donc j'aurais proposé le Pacte Noir.
Donc le Pacte Noir, qui était un livre que tu avais en projet depuis des années, qui était en fait une sorte de suite proposée au Masque Noir, au L'Homme Noir, pardon, qui était paru aux Champs-Élysées en 1976, c'est bien ça?
Oui.
Donc le projet était déjà en sommeil, on pourrait dire.
Ah oui, parce que moi, à l'époque, quand c'était Van Herp, Jacques Van Herp, qui s'occupait du Masque Fantastique, et qui créait cette collection, et qui m'avait appelé, je le connaissais depuis les cahiers de l'Herne Frost, il m'avait dit, voilà, est-ce que tu veux traduire? Je sors des bouquins fantastiques. Alors je lui dis, bon, bah, d'accord. Et puis moi, je suis venu au Librairie des Champs-Élysées, Masse Fantastique. Et j'avais apporté mon projet du Pacte Noir. Et dès qu'on se voit, il me dit, voilà, les premiers bouquins que j'ai reçus. Et il y avait L'Homme Noir, ce Darkman. Alors je lui dis, bah, écoute, je suis d'accord pour le traduire. Donc c'est comme ça que ça. Vraiment, tout s'est fait naturellement, enfin très, très facilement, sans complication.
C'était des gens qui lisaient du fantastique eux-mêmes, qui étaient fans, ou alors ils ont dit, tiens, vu qu'il n'y a plus le Marabout, qu'il n'y a plus d'éditeurs vraiment de fantastique en France, on va vraiment créer une collection parce que c'est, voilà, il n'y a rien et donc on peut se faire un marché. Ou alors ce sont vraiment des passionnés qui connaissaient tous ces auteurs-là, qui étaient des amateurs de littérature de genre, ou comment?
Oh oui, je pense qu'ils aimaient beaucoup le fantastique et puis aussi le policier, hein, s'ils voulaient créer une collection policière avant, qui n'avait pas démarré. Donc oui, je crois qu'ils avaient une bonne base de fantastique. Et puis ils cherchaient de nouveaux auteurs. Donc bon, bah, c'est bien tombé pour moi, puis pour Howard.
Donc les auteurs publiés sont très nombreux. Hein. Il y a Howard, beaucoup ah, oui. d'Howard, 35, 36, 37, oui. Je ne sais plus, Howard. Il y a beaucoup de genrés aussi, John Flanders, Clark Ashton Smith, Masterton, bon, Ryder Haggard, des classiques et des nouveaux. Comment se passait au quotidien La sélection des titres, puisqu'à un moment, ça devenait vraiment frénétique. Hein. Je me rappelle que sur, des fois, il y avait 2-3 titres qui paraissaient tous les mois, ce qui était juste totalement délirant. Comment se passait le, je dirais, le côté éditorial de chez Neo? Est-ce que tu étais impliqué, toi, dans le fait de dire, bah, voilà, on va, ça serait bien qu'on fasse, tiens, un award tous les deux mois, je me doute bien que tu avais un plan prédéfini, mais pour les autres auteurs, le choix du catalogue, est-ce que c'était toi qui décidais, c'était eux? Comment ça se passait un peu de ce côté-là?
Il y avait les deux choses, c'est-à-dire eux avaient des idées déjà préconçues sur ce qu'ils voulaient publier, et puis moi j'arrivais, puis je proposais des projets. Donc il y avait Howard, et puis après il y avait Masterton, et puis beaucoup d'autres, des auteurs que j'admirais, qui étaient partiellement traduits, comme Clark Ashton Smith. Donc ça, je voulais faire une série, puis il y en avait d'autres, hein. Il y a eu un Robert Bloch, j'ai plus d'autres titres, et puis il y avait des rééditions. Donc, ce qui permettait de sortir 2 ou 3 titres par mois, parce que sinon, on n'y serait jamais arrivé. Donc, il y a d'autres idées, c'est de créer une sorte de bibliothèque idéale du fantastique. Donc, en reprenant des auteurs dits classiques, entre guillemets, et puis avec en intercalant avec des nouveaux auteurs à découvrir. Donc, ça faisait un ensemble assez intéressant.
Alors, si on prend tout ce catalogue, il est quand même très varié parce qu'il n'y a pas grand point commun entre Robert Bloch, Ryder Haggard, Howard Jean, etc. Et donc là, je me tourne vers l'illustrateur qui lit tous les livres qu'il doit illustrer. Il y a quand même des livres qui devaient pas forcément te passionner autant que d'autres, des auteurs, des sensibilités, j'imagine, différentes. Donc dans ces cas-là, quelle était ton approche? Est-ce qu'il y avait des raccourcis que tu pouvais prendre ou au contraire? Enfin, je ne sais pas.
Dans la pratique technique hein, de l'illustration, il y a de très mauvais bouquins qui font de très bonnes couvertures. Parce qu'il y a une idée de base qui peut être conçue, n'est-ce pas, graphiquement. Et il y a de très bons bouquins qui font de très mauvaises couvertures. Entre autres, par exemple, ça n'a pas été publié chez Neo, mais prenons un cas comme Kafka. Kafka, c'est quasi impossible de faire une couverture, et en particulier La Métamorphose. La Métamorphose, c'est un bouquin avec cette espèce d'insecte, n'est-ce pas? Donc c'est du fantastique. Mais tout le monde s'évertue à faire une espèce de coléoptère ou une espèce de larve sur la couverture. Gallimard l'a fait abondamment. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La première couverture qui a été faite à l'époque de Kafka, c'est un homme qui est sur son lit et qui est inquiet. Et donc il y a très bons bouquins qui sont difficiles à illustrer, très difficiles. Il faut aller chercher des choses avec complexité. Donc un mauvais bouquin, je ne veux pas dire que parmi les bouquins qui ont été édités, il y en a eu des franchement mauvais, mais il y avait des bouquins qui avaient moins d'intérêt. Par exemple, certains bouquins de la collection Fleuve Noir qu'ils ont réédité, bon, c'était assez conventionnel. Quoique B.R. Bruce était quand même un auteur de qualité. Alors, en général, ils essayaient d'avoir... Le but et l'idée fondamentale est arrivée à un certain moment de faire une espèce de collection encyclopédique du fantastique. Et ça aurait pu durer des années. D'ailleurs, ça a duré 10 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Mais ils ont eu des problèmes financiers importants. Et ils ont eu surtout des problèmes de diffusion importants. Et je crois que, là, je vais parler un peu technique, ils ont changé plusieurs fois de diffuseur. Et le dernier diffuseur qu'ils ont eu était un diffuseur à tendance catholique. Et il a très mal diffusé les bouquins parce qu'il pensait que cette collection était démoniaque. Donc il y a eu une rétention, et je crois que ça a beaucoup aidé à leurs difficultés et à leur dépôt de bilan. On a proposé des solutions et qu'ils n'ont pas voulu prendre pour continuer. Mais ça, c'est leur choix et ils voulaient en garder la propriété absolue, ce que je comprends. Et puis Hélène, est une fille qui est quand même assez autoritaire, il faut reconnaître, hein, sans aucune critique. Hein, c'est un personnage bon, qui avait ses idées, et quand elle avait une idée, elle ne lâchait pas. Voilà. Je sais que, à titre d'anecdote tout à fait particulière, elle ne supportait pas les ascenseurs et elle avait un banquier qui était au 13e étage. Et donc, elle obligeait le banquier à monter avec elle à pied. Voilà. Donc, je trouve ça assez drôle, quoi. C'est un personnage très drôle, avec des maniaqueries importantes, mais d'une très grande culture. Quant à Pierre-Jean, il était beaucoup plus libéral dans ses concepts. Et bon, il est parti le premier, n'est-ce pas? Bon, elle est toujours vivante. Je ne la vois plus beaucoup. Là, il y a un moment, je la voyais régulièrement tous les mois. Mais maintenant, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et elle habite dans l'île Saint-Louis. Et je sais qu'elle travaille pour. Elle a travaillé pour le Cherche Midi. Mais le Cherche Midi, je ne sais plus si les collections fonctionnent toujours. Donc, voilà. Mais c'était tout à fait agréable parce que c'était des gens extrêmement cool, quoi. C'était pas compliqué, c'était pas comme chez d'autres éditeurs avec qui j'ai travaillé, comme Lattès, comme Gallimard, comme des gens comme ça, qui avaient cette espèce de structure qui n'était pas familiale, qui était très administrative et très austère, finalement. Et bon... même si j'ai bien connu, j'ai travaillé pendant longtemps chez Gallimard en parallèle, c'était un autre monde. Là, ben c'était sympa, on déjeunait ensemble des fois. Il y avait un côté très famille, très agréable, et on pouvait dire ce qu'on voulait, c'est-à-dire de proposer des livres, effectivement. Je sais que j'ai proposé des livres qui n'ont pas été pris, mais dans un cadre encyclopédique, je trouve que c'est dommage. Par exemple, Einstein Savers, je trouvais que c'était intéressant, Mondragor, de republier ce livre, qui était justement de la littérature allemande et pas de la littérature américaine ou anglaise. Et m'avait dit non. Non, elle était très anglophile, n'est-ce pas? Donc, le problème s'est posé, mais je trouvais qu'il y avait plein d'autres livres à publier qui étaient très intéressants. Oui, aussi. C'est-à-dire, si on avait pu continuer à faire une collection très grande, beaucoup plus importante, avec 1000 volumes, à ce moment-là, on pouvait faire quelque chose de un peu international, et ne pas se limiter au monde anglo-saxon, quoi. Parce que en français, il y a beaucoup d'autres.
Jean Rey, quand même. Hein.
Jean Rey, mais oui, c'est un Belge. Et, mais Jean Rey, non, mais c'est important, bien sûr, Jean Rey, c'est fondamental. Mais pour moi, c'est fondamental parce que peut-être si j'ai fait ce métier dans ce domaine-là, c'est à cause de Jean Rey. C'est certainement l'auteur qui m'a le plus branché quand j'étais jeune, et chez Marabout, où j'achetais tous les ouvrages de Marabout, et mon père me disait, mais qu'est-ce que tu lis de ces conneries de gare, n'est-ce pas? Et j'étais passionné dans mon pieu, je lisais ça avec en frémissant, n'est-ce pas, Thomas Owen, des auteurs comme ça. Enfin, il y a eu des publications de Thomas Owen aussi. Il y a eu des publications de Seignol, bien sûr, il y a eu tous ces auteurs qui étaient des reprises de Marabout. Parce que Marabout, c'est vraiment des novateurs dans le genre. Hein, parce que collection fantastique, il n'y avait pas mieux. Et j'ai été très fervent. Alors je les ai toujours, ce qui fait que ça surcharge mes bibliothèques. Plus néo, plus, c'est-à-dire qu'il y a des bouquins répétitifs, n'est-ce pas? Il y a plusieurs éditions. Jean Rey, ben, il y a des vieilles éditions aussi, j'ai conservé, enfin bon. et ça c'est le problème de la passion des livres en général, ce qui fait que je suis en train d'abandonner une partie de ma bibliothèque, parce que je ne peux plus me tourner, et tout ce qui est littérature classique, bah, je m'en dessaisis petit à petit, parce que je garde que le fantastique, et puis d'autres secteurs, comme le diable qui m'intéresse beaucoup, depuis toujours.
Je ne sais pas si tu as vraiment répondu à la question, mais c'est très, très intéressant.
C'était quoi déjà la question?
François, est-ce que toi, tu avais la même approche, avec la même relation avec, avec Léo Oswald? Donc, Jean-Michel parlait de, voilà, de ce côté famille. Alors, moi, j'ai souvenir d'avoir été à l'époque chez Néo, qui était rue Cochin, avec toi. Et d'avoir rencontré Hélène, et puis qui me disait, bah, tiens, prends tel bouquin, voilà ce qu'on va faire, etc. Enfin, c'est vrai que j'avais ce côté-là, ça avait l'air très sympa de travailler dans cette boîte-là. C'est aussi ton souvenir et ton expérience?
Ah oui, tout à fait, hein. C'était vraiment très décontracté. Moi, j'y arrivais, on se mettait autour d'une table à trois, souvent à trois, Pierre-Jean, Hélène et moi, ou à quatre des fois, et puis on discutait, on disait, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'on veut sortir quel livre? Et moi, je disais, ah bah tiens, il y a tel bouquin que j'aimerais bien reprendre. Quand c'était des reprises, pas des inédits. Par exemple, Bruce, c'est moi qui ai apporté. Il y avait eu deux Bruce, c'est moi qui les ai apportés. En disant, c'est deux bouquins que j'aime beaucoup, et il faudrait les reprendre. Et bon, j'ai apporté d'autres idées, hein, mais ça, c'était normal. Mais ça se faisait très, très simplement. Il n'y avait aucun diktat, ni interdit. Il disait, ah bah oui, ça, c'est bien. Non, ça, vous verrez plus tard. Mais c'était vraiment très, très décontracté et très libre. C'est vraiment très agréable.
À quel moment se faisait-il qu'elle prenait tes bouquins et pas ceux de Jean-Michel?
Ah oui, je sais pas.
Je peux y répondre. Parce que, entre autres, j'avais proposé un livre, je ne savais pas, qui s'appelait L'araignée, de Evers.
Ah ben bah oui.
Et donc, elle avait une psychose sur les araignées. Et donc, voilà. Parce que rien que le mot araignée, il ne fallait pas le prononcer. Donc, voilà. Et puis du coup, comme il avait écrit L'araignée, qu'il ait écrit Mandragore après, c'est une autre affaire. Quoi. Bon, voilà.
Donc toi, François, tu travaillais, quand tu travaillais sur les traductions, j'imagine que c'était chez toi, mais est-ce que tu avais des heures de boulot au bureau chez Cochin, enfin rue Cochin chez Néo, ou comment ça se passait en fait?
Ah non, ça on se voyait comme ça. Quand je rapportais une traduction, on discutait pendant une demi-heure ou une heure, en disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous avez comme projet, etc. Je travaillais chez moi, mais il n'y avait pas d'heure de bureau. Hein. C'était juste des rendez-vous informels, comme ça, et puis ça se passait très, très simplement. Hein.
Ça a l'air sympa comme boulot. On va revenir sur Howard. Donc, Le Pacte Noir paraît... 79, donc c'est le deuxième titre après le Abramirite et avant Roxon de mémoire. Et puis je pense qu'il marche assez bien, puisque peu après, il y a le volume 10 de la collection, c'est Cull, suivi du 26 Solomon Kane, du 38, je connais des numéros par cœur, c'est normal. Le Retour de Kane et 40 L'Homme Noir, 60 Brand McMahon, 78 Annie Chastillon, je peux continuer comme ça. Et brutalement, il commence à y avoir une, au départ, il y en avait quelques-uns, il y avait 66 et avant, il y a Cormac McCart, il y a une accélération dans le rythme de parution des volumes. On avait un Howard tous les 6 mois, et très rapidement on arrive sur une sorte de rythme de croisière infernal, puisque très rapidement tu arrives à sortir 4, 5, voire 6 Howard par an, et il est sans arrêt au catalogue. On sait que tous les deux mois on peut s'attendre à avoir un nouvel Howard. Première question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui correspondait à un réel succès en librairie visible? Donc, quels étaient les chiffres de vente, si tu t'en rappelles, si tu les as? Et deuxièmement, comment est-ce que toi, tu as réagi face à cet état de fait, savoir que bah, voilà, tu avais un lectorat français? Il faut savoir qu'aux États-Unis, à cette époque-là, il n'y a rien. L'actualité howardienne, c'est plus rien. Et Howard n'est plus édité aux États-Unis entre 83 et le dernier bouquin de poche. Et encore, c'est un truc limite. Mais grosso modo, le film de Milius a tué l'édition des œuvres de Conan, très clairement, parce que, alors, indirectement, hein, c'est parce que ça a créé une sorte d'overdose de mauvais films d'heroic fantasy, ça a tué l'heroic fantasy aux États-Unis, ce qui fait que c'est resté mort pendant 15 ans jusqu'à ce que George Martin arrive et renouvelle, entre guillemets, le genre en termes de popularité. Mais aux États-Unis, il n'y a rien. Et en France, nous, on a les néos qui paraissent sans arrêt de tous les côtés. C'est un vrai succès. Donc, comment toi, tu as réagi? Est-ce que tu as dû te mettre à travailler la nuit? Ou est-ce que ton quotidien a changé? Est-ce que tu avais encore une vie sociale après ça?
Plus tellement, mais non, c'est-à-dire, après l'apparition du pacte noir, les hommes m'ont appelé, on dit, ça a bien marché, est-ce qu'on peut en sortir un deuxième? Moi, j'avais commencé à traduire Cul, le roi barbare, pour le Masque Fantastique, et puis la série s'était arrêtée, donc j'ai dit, j'ai ça en deuxième. Mais dit, allez-y, on y va. Donc on a sorti le deuxième, puis après, ils m'ont dit, écoutez, ça marche bien, est-ce que vous pouvez continuer? Et puis, juste à ce moment-là, aux États-Unis ou en Angleterre, je ne sais plus, il y avait les deux Solomon Kane qui venaient de paraître. Donc, j'ai dit, écoutez, c'est pas mal, on va le faire. Donc, on a sorti les deux Solomon Kane. Et en cinquième, ils m'ont dit, on va rééditer L'Homme Noir. Et puis après, c'était la grande inconnue, tous les nouveaux auteurs. Moi, au départ, je pensais en sortir 4 ou 5, et puis c'est tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert de nouveaux bouquins, comme j'allais à Londres assez souvent, je découvrais à chaque fois des livres de Ward que je ne connaissais pas. Donc je découvrais avec tous les personnages, donc ça a continué comme ça. Et puis j'en suis arrivé à 35, quoi. Puis c'est-à-dire, j'en sortais un tous les 3-4 mois, enfin, je ne sais plus.
Deux mois. À la fin, les 2 mois.
Oui, non, mais ça. Et à partir d'Elborac, ils m'ont dit, ça marche bien. J'ai dit, écoutez, à partir d'Elborac, si vous voulez, j'en sors un tous les 2 mois. C'était un peu fou, mais bon. On a continué comme ça. Puis après, j'en ai sorti un tous les 2 mois. Puis j'ai intercalé avec un Masterton. Donc j'étais bien. Mon planning était bien rempli.
Et donc il y a un moment, j'imagine que tu es rentré encore. Je sais que tu es rentré en correspondance avec Glenn Lord, qui était. Alors Glenn Lord, c'est, pour faire très simple, c'est le monsieur qui avait à cette époque-là la charge d'être l'exécuteur testamentaire des héritiers de Ward. Donc les héritières étaient deux petites mamies du Texas qui avaient hérité de cette manne financière-là sans savoir ce que c'était, et qui, je pense, si elles avaient lu les histoires, elles auraient été très choquées. Et donc Glenn Lord est devenu l'agent, et donc toi, tu es rentré à un moment en correspondance. Tu as connu Glenn, donc je sais que tu ne l'as jamais rencontré. Comment ça s'est fait, et puis qu'est-ce qu'il t'a proposé?
Je ne sais plus comment ça s'est fait, si c'était par les agents littéraires. À l'époque, c'était l'agence Include en France. Donc je pense que c'est eux qui m'avaient donné l'adresse. Et puis j'avais le bouquin de Glenn Lord, de The Last Celt, où c'est là que je me suis aperçu de tout ce qu'il avait écrit, et surtout des inédits aux États-Unis. Donc je lui ai écrit en lui demandant de m'envoyer tous les inédits de Ward, avec tous les personnages, et il me les a envoyés, donc ça me faisait encore du matériel en plus, quoi. En plus des bouquins qui avaient paru, mais il n'y en avait pas des masses, et puis là, tout ce qu'il y avait, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'appelais des premières mondiales en France, c'est-à-dire même des textes inédits aux États-Unis, qui n'avaient jamais été publiés aux États-Unis. Donc c'est assez exceptionnel. Puis je reçois aussi, après un peu plus tard, des fanzines, les gens m'envoyaient des fanzines avec des textes inédits, des nouvelles inédites de Ward. Donc ça me faisait encore des bouquins, des volumes en plus, quoi. Donc ça s'arrêtait pas, ça grossissait à chaque fois, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à 35-36 volumes, plus les poèmes.
Donc 6 volumes par an à une époque, et tu intercalais ça avec un Masterton juste pour respirer. Quand est-ce que tu dormais?
Si j'arrivais quand même à dormir, ça allait. Non, c'est à Ward où comme ça se passait très facilement, donc c'était vraiment pas une distraction, j'exagère, mais enfin bon, ça me posait pas de problème, donc ça coulait assez facilement et assez rapidement.
Donc tu décides de faire paraître un volume Ward, Brad McMahon, n'importe quoi, comme Mac McCart. Donc les Oswald disent ok, c'est bon, Banco il sort à tel moment. Comment ça se passe avec l'illustrateur? Est-ce que l'illustrateur reçoit le texte largement en amont? Est-ce qu'il reçoit des épreuves, le texte en anglais? Est-ce qu'il décide tout seul du choix d'illustration? Est-ce qu'il doit faire des croquis? Comment ça se passe à cette époque-là?
D'une part, François me donnait les textes, soit directement, soit Hélène me donnait les textes, en français. Et d'autre part, non, jamais j'ai fait des dessins préparatoires. D'ailleurs, ça m'a donné très très mauvaises habitudes parce que pendant des années, avant, en tant qu'illustrateur, on présentait jamais d'esquisses. Et par exemple, chez Gallimard, un dessin était refusé, on faisait l'original, on donnait l'original, et en fonction de cet original, s'il était refusé, eh bien, on était payé la moitié. Et donc, c'était la technique qui était utilisée, qui n'existe plus, bien entendu, maintenant. Et par contre, Néo, dès les premières couvertures, ils m'ont dit, ben, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu fais ce que tu veux, voilà. Donc, j'ai jamais eu de problème de présentation de choses, etc. Même quand on a fait les poèmes, etc., ils m'ont dit, ben, tu vois avec la maquette, tu vois tout ça. Donc, c'était ma femme qui a fait les maquettes. Et tout ça s'est très bien passé, simplement. Et voilà. Et puis on a bien vendu les livres, donc c'était avantageux pour tout le monde. Enfin, nous, on était payés, là, en l'occurrence, une somme forfaitaire.
Même pour les trains.
Ah oui, oui.
Mais bah, donc, non, enfin. Pour les, je parle des Lovecraft et Howard, les poèmes.
Oui, oui. Ah, oui, oui.
C'était une somme forfaitaire, puisque c'était un petit tirage.
Ouais.
Mais voilà. Il n'y a eu aucun problème.
Ah non.
Les concepts actuels de l'illustration ont complètement changé par rapport à ce que c'était au préalable. Si on généralise le point de vue, un illustrateur, on lui faisait confiance. Sinon, on ne l'appelait pas. Ce n'est pas la peine d'appeler un type pour lequel... C'est-à-dire qu'en général, on a vu ce qu'il fait et en fonction de ce qu'il fait... de ce qu'il a présenté, etc. Moi, je suis arrivé chez eux avec un dossier, avec des bouquins que j'avais faits, quoi, pour qu'ils voient. Ils me disent, ah, mais non, mais on le connaît déjà, ce bouquin. Bon, d'accord, c'est encore plus simple. Mais maintenant, le problème n'est plus du tout le même. C'est un autre métier. D'abord, c'est beaucoup moins bien payé que, bien sûr, une couverture de livre. Il n'y a pas très longtemps, il m'est arrivé une aventure quand même qui est assez extraordinaire. Il y a un éditeur qui m'appelle, petit éditeur certes, et qui me dit, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez une couverture. J'en fais nettement moins que je n'en faisais, et qui me dit, je lui dis, bon, ben, d'accord, bon, faut m'envoyer le texte. Et puis je lui dis, comme ça, par hasard, combien vous payez? Et il me dit, 120 euros. Alors je lui ai dit, écoutez, moi, pour 120 euros, je ne me lève même pas le matin. C'est pas possible de lire un livre, ensuite de... Et puis il me dit, vous me faites une maquette pour que je vois si j'accepte, etc. Là, là, j'ai dit, ben non, voilà, je fais pas, débrouillez-vous. J'ai travaillé pendant longtemps en parallèle, enfin, après... pour la collection Chair de Poule, pour la jeunesse, dont j'ai fait les couvertures. Et là, j'envoyais un petit crobard merdeux à la directrice artistique, qui est une copine quand même, donc ça allait vite. Et ça posait pas de problème. Et puis ça s'est dégradé, les choses se sont dégradées. Maintenant, ils vous demandent de faire des esquisses préalables, etc. Moi, je ne fais pas d'esquisses préalables, je suis vieux. Et je travaille comme les vieux faisaient. Autrefois, on leur fait confiance ou on ne fait pas confiance. Et ça, c'est terrible. Mais ça s'est toujours très bien passé avec Néo. Même si j'ai fait des expériences photographiques, même si j'ai bricolé des trucs à n'en plus finir, parce que quand même, il faut se renouveler quand on a 5 couvertures par mois, 4-5 couvertures par mois, dans la même collection... Il faut essayer de trouver des trucs originaux. Et bon, après, en parallèle, il y avait Eric Dixon, etc. Là, j'ai fait de la photographie. Je me suis photographié moi-même. Et, mais ça, c'était tout un autre contexte. Et c'est vrai que ils ont toujours marché dans la combine. En fait, justement, on parlait de Jean Rey, quand il y a eu 2 Harry Dixon qui sont sortis dans la collection Fantastique Aventure. Et puis, ces deux couvertures, en fait, ces deux photos qu'avait fait de moi Robert Doisneau, parce que c'était un vieux copain qui habitait pas très loin d'ici, et j'ai utilisé ces photos, je lui dis d'ailleurs, il m'a dit vas-y, pas de problème, j'ai tout recoloré, j'ai tout redessiné, mais je me suis servi parce que j'étais là avec ma pipe, etc. Bon, et ça a été le début d'Harry Dixon. Donc, après, quand ils ont décidé de publier toute la série d'Harry Dixon, soi-disant écrite par Jean Rey, parce qu'on n'est sûr de rien, et bien à ce moment-là, il m'a dit, mon vieux, il va falloir que tu utilises ta gueule. Alors, moi, je l'avais fait pour plaisanter, pour les copains, en disant, tiens, je vais jouer le rôle d'Harry Dixon, ça va être rigolo, et tout. Et puis là, il a fallu que je fasse toute la série. Mais c'était pas gênant parce que les gens ne savaient pas obligatoirement et c'était plutôt sympa. Ça a été sympa de faire autre chose, c'est-à-dire jouer avec la photographie qui m'intéressait à l'époque, qui m'intéresse plus maintenant. Depuis qu'il y a... Parce que j'adorais retoucher les photos. Et la retouche photographique, j'ai fait un autre bouquin chez Crapule, les éditions Crapule, qui est un grand format d'Harry Dixon, avec qui j'ai eu beaucoup de difficultés d'ailleurs. Pour publier un Harry Dixon, parce que Delaunay et compagnie me sont tombés dessus, mais on est allé voir en Belgique, et moi je leur ai dit, bah écoutez, prouvez-moi que Harry Dixon appartient à Jean Rey. En fait, il a traduit des bouquins qui existaient, allemands, donc Harry Dixon, c'est pas lui qui a inventé le nom. Ou prouvez-moi qu'il existe. Et elle m'a dit, bon, vous m'énervez, etc. Et on a fait ce qu'on a voulu, finalement. Donc, elle voulait faire un procès sur le fait qu'elle ne voulait pas qu'on matérialise Harry Dixon, qu'on lui donne une figure. C'était la mienne. Voilà. Bon, à l'époque, j'étais plus jeune. Et maintenant, je ne pourrais plus jouer ça. Faudrait que je joue un espèce de savant fou, un truc comme ça, oui. Mais voilà comment ça s'est passé. Et ça a très bien fonctionné, on n'a pas eu d'histoire du tout. Mais quantitativement, sur le plan des illustrations, j'ai dû faire 500 ou 600 dessins chez eux, en noir et blanc, enfin, pour les différentes collections. Et ça a été un travail régulier, très sympathique d'ailleurs, que j'arrivais à gérer en une semaine et demie, deux semaines, et puis après je faisais ce que je voulais. Mais donc c'était intéressant de faire d'autres choses, ce qui était quand même très important. Mais si tout était bien préparé, quand on m'envoyait bien les textes, etc., il y avait un délai bien sûr, mais ça c'est le cas de l'illustration en général, il y a toujours un délai. Maintenant, il y a de moins en moins de délais. Et c'est ça qui est un problème, parce qu'on dit, ben, quand ce sera fini, tu... Et bon, c'est gênant, parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie sur commande, et maintenant, on propose de... Tu fais quand tu veux. Je fais quand je veux. Non, je n'ai pas l'habitude de faire comme je veux. Alors, je fais de la peinture. Là, ça, c'est autre chose. Ça s'étale sur un an pour une exposition. Mais cette espèce de délai, cette espèce de charrette, c'est quand même très important parce que c'est extrêmement stimulant. On s'organise et tout va bien, quoi. C'est un peu comme François, qui est obligé de tomber ses bouquins les uns après les autres. Mais en même temps, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est le pognon qu'il y a au bout, faut bien dire. On dit, bah, y a un bouquin de plus à faire, il y a une couverture de plus. Bon, bah, pas de problème, oui, tiens, ça fera encore quelques sous supplémentaires. Sans être vénal, n'est-ce pas, sans être prostitué, dans son... mais c'est agréable d'avoir du boulot et de rentrer du pognon, quoi, en plus. Et quand on... Alors, moi, ce que je faisais, j'allais rendre les couvertures, une fois que c'était fini, et je prenais la journée pour moi. Et je rentrais que le soir à la maison, j'allais faire les libraires, j'allais faire les bistrots, j'allais faire, voilà, j'allais me promener dans Paris. Mais c'était une phase de décompression. Ça a toujours été ça, j'ai toujours fait ça. Maintenant, je ne fais plus parce que, en général, ça passe par ordinateur, c'est scanné. Donc, on me dit, ah non, 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 il n'y a pas très longtemps, chez Bayard, je fais une affiche d'un squelette, etc. On m'avait demandé. Et je dis, ben, je vous l'apporte, si vous voulez. Ah non, 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 envoyez-le. Non, je ne veux pas vous voir. envoyez-moi par vous le scannez, vous me l'envoyez, quoi. Et je trouvais que c'était un monde vachement compliqué maintenant, où on cherche plus à communiquer avec les individus. Et chez Gallimard, j'y allais, je connaissais tout le monde. Généo, c'est pareil. Aux Humano, quand je travaillais à Métal, c'était pareil. C'était l'occasion de boire des coups, c'était l'occasion d'échanger et de découvrir des choses. Et maintenant, non. Je dis, ah non, je ne veux pas vous voir, ça ne m'intéresse pas, quoi.
C'était pareil pour toi, François, quand tu avais terminé la traduction, il fallait une décompression, voir du monde, voir des gens, parce que la traduction comme l'illustration, ça reste quand même des métiers de solitaire. On reste enchaîné à une chaise durant de longues journées, des longues nuits. Est-ce qu'il y a un moment, il fallait que tu sors, que tu vois des gens, la vraie vie?
Oui, comme, peut-être pas pour revoir, mais pour Masterton. C'est comme c'était des plus gros bouquins, quand j'avais terminé un Masterton, j'étais content et il fallait deux ou trois jours vraiment pour que je me réadapte. Hein. C'était vraiment crevant.
On allait manger de la nourriture réunionnaise à un moment, après quand on avait fini. Ouais. Ouais. C'est sympa.
Est-ce qu'il y avait des encore, enfin à Esplendie j'imagine bien, mais est-ce qu'il y avait des soirées plus ou moins
Néo, non.
Néo, non.
Non. Non, non. Non, non. On allait chez Drouillet.
C'était un peu la même chose. Ouais.
C'était mieux. C'était mieux
organisé. Une question technique. Donc maintenant, on a au premier étage la chance d'avoir 22 de tes illustrations originales pour la collection Award chez Néo avec un latès, qui est quand même la première fois au monde où on a une telle collection réunie en un seul lieu. Est-ce que tu peux me parler, donc, elles sont magnifiques, moi qui connais ces illustrations par cœur, en les admirant en original, on voit la richesse des couleurs, enfin, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler technique un petit moment, comment tu faisais ces couvertures, quel média tu utilisais, etc. Voilà, s'il y a des amateurs peintres, des amateurs peintres, nous expliquer comment tu abordais ton travail de façon pratique et matérielle.
Maintenant, je dis une chose, je dis que je l'ai fait à la main, parce qu'il y a de moins en moins d'illustrateurs manuels, mais moi, c'est la vieille école. Bon, c'est de l'acrylique, c'est de la peinture acrylique, c'est pas du tout de l'huile, c'est de l'acrylique. Et je faisais ça en général sur le plan technique en une journée et demie, deux journées maximum, de manière à pouvoir gérer les couvertures les unes après les autres. Alors, il y en a qui sont mieux que d'autres. Il y en a que je déteste. Hein. Mais non, je dis pas. Mais il y en a que je n'aime pas.
Alors celles que tu aimes, dont tu es particulièrement Howard ou...
Je les garde. Je les garde pour les expos en général, celles que j'aime. Ouais. Je les garde parce que les autres, j'en vends de temps en temps, bien sûr. Et c'est intéressant d'arrondir les fins de mois, mais bon, puis il y a eu des expos, ventes, etc., il y a eu tout ça. Puis j'ai des galeries pour lesquelles je travaille qui vendent aussi des originaux, mais j'ai un fond que je garde quand même pour mes vieux jours, mais pour mes vieux jours qui sont déjà commencés, mes vieux jours d'ailleurs. Mais voilà, comme ça. Attends, sur le plan technique, eh ben, qu'est-ce que je dirais? On réfléchit sur ce qu'on va faire, comment on va le faire, et puis on commence avec des calques. Moi, je travaille beaucoup sur calque, le dessin, Et puis après, ça va très très vite. Ça va très vite parce que une fois que j'ai défini mon dessin, eh bien, comme c'est de l'acrylique, je travaille par couches superposées. Je commence par le fond. Et puis une fois que le fond est en place, je positionne les choses, je cherche la position. Avec un calque, c'est très pratique parce qu'on peut cadrer les choses comme on entend. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et il y en a qui vont très vite et il y en a où on s'emmerde dessus parce que ça ne va pas, la matière ne vient pas, l'idée n'était peut-être pas idéale. Donc voilà. Mais c'est pas. Il ne faut pas croire que c'est le bonheur constant. Il y a le dessin ou la peinture, enfin ce genre de choses, c'est un peu comme la sexualité. Il y a beaucoup de préparation et finalement le plaisir, on l'a pendant quelques instants. Et c'est une espèce d'orgasme, enfin, de proportion gardée évidemment. Mais c'est un plaisir qui est court, qui est très court. On sent que les choses sont bien à ce moment-là. Et pendant tout le temps avant, il a fallu préparer tout le bordel et tout faire. Et voilà. Et c'est peut-être ça qui est un peu curieux dans ce métier. Mais c'est quand même pour ça qu'on recommence. Pour retrouver cette espèce de plaisir. Et il y a des fois où on ne le trouve pas. C'est comme dans la vie, d'ailleurs. Bon, voilà.
Pendant de nombreuses années, on a l'impression que Néo est invincible. Il y a des titres qui sortent des collections, les intégrales Harry Dixon, les intégrales Conan Doyle, Néo Plus. Il y en a de tous les côtés. Et ça va commencer à se tarir, on va dire, vers la fin des années 80. Et puis progressivement, ça va même complètement disparaître. Alors, est-ce que tu peux nous parler, François, du crépuscule des années Néo et comment est-ce que tout cela, ça s'est terminé? Et ensuite, quelles répercussions sur toi, au plan personnel?
Je crois qu'ils ont eu de plus en plus de difficultés financières. Hein, et comme Jean-Michel disait, c'est le distributeur qui allait plus. Alors donc, ils étaient complètement acculés. Ils ont été obligés d'arrêter. Puis ça a été la faillite, quoi. Donc, moi, je travaillais de moins en moins pour eux. Parce que bon, ils sortaient moins de choses. Puis c'est qui m'intéressait moins. Donc, puis à un moment, ça s'est arrêté. Hein. Après, moi, j'ai continué différemment. J'ai continué Masterton, donc à Press Pocket, et puis en traduisant d'autres auteurs. Mais bon, bah, Néo, c'était fini. Pendant 10 ans, c'était fabuleux. Et puis bon, bah, il fallait bien que ça s'arrête un jour ou l'autre. Donc ça s'est arrêté comme ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu considères cette époque rétrospectivement comme les années dorées ou des années dorées de ta carrière? Ça a vraiment une place à part?
Ah bah oui, moi je pense que ça a été les 10 meilleures, sur le plan professionnel, hein, mais les 10 meilleures années de ma vie. Hein, où vraiment, je faisais tout ce que je voulais, tous les bouquins que je proposais étaient acceptés, les traductions, etc. Donc je n'ai pas arrêté pendant 10 ans, donc vraiment, oui, c'était merveilleux.
Jean-Michel?
Bah, oui, moi aussi c'était merveilleux parce que je ne faisais pas que ça quand même. Je ne faisais pas que Néo. Donc j'avais un fixe. J'avais un fixe avec Néo. J'avais l'assurance d'avoir des commandes régulières. Comme j'étais prof à côté, c'était le bonheur, quoi. Voilà. C'est vrai que c'était une vie. Où l'argent tombe, j'ai l'air d'insister beaucoup sur l'argent, mais c'est quand même vachement important, quoi. Non, ça a été une période de liberté, c'est vrai. Alors que j'avais d'autres clients qui étaient moins libertaires, si je puis dire, et qui m'imposaient quand même des choses plus emmerdantes. Mais ça a été drôle, quoi. Parce que quand on aime ce type de littérature, on peut essayer de faire des expériences, essayer des choses toujours nouvelles. Voilà, alors, c'est vrai que la fin, on l'a vu venir, hein, un petit peu, ça s'est dégradé progressivement. Mais moi, j'avais monté une autre maison d'édition peu concurrentielles pour lesquelles tu avais travaillé aussi, qui était Crapule, et une collection qui s'appelait Sombre Crapule. Et puis j'étais associé avec deux personnes, et ils sont morts tous les deux d'ailleurs. Le premier, c'était le patron de Champ du Monde, qui avait envie de faire l'édition. Et on a sorti une collection avec Greenan, etc., qui était plus policière. Et moi, j'avais tenté d'orienter plus vers le fantastique. Et tu avais fait Algernon Blackwood, là, bon, voilà. Et c'était intéressant. Et je pensais qu'on allait s'en sortir, mais un de mes associés est mort. Et c'est celui qui bricolait le pognon et qui, justement, qui finançait les choses. Donc, on a revendu les droits parce que... On a revendu les droits à Guérif et Rivage Noir de certains bouquins. On avait sorti entre-temps un livre qui était assez incroyable, qui s'appelait de Mark Bem, qui La Reine de la Nuit, et qui était, d'ailleurs, ça nous a posé un problème terrible. La Reine de la Nuit, c'était les mémoires de la maîtresse d'Eva Braun. Bon, ce qui était quand même, je ne sais pas si tu as dû l'avoir. Et bon, le problème, c'est que beaucoup de gens ont cru que c'était vrai. Alors qu'en fait, c'est un bouquin de Mark Bem. Et Mark Bem avait l'habitude, il m'avait dit, voilà, moi, quand je fais des scénarios de films, et puis, de temps en temps, je développe un scénario, j'en fais un roman. Et là, c'était un scénario de film qu'il a développé, mais qui était très, très dur à réaliser du point de vue cinéma, d'une violence inouïe. Et ce bouquin, je pensais qu'il allait très bien marcher. Personne n'a rien compris. Et il ne s'est pas très bien vendu. Et je regrette parce que c'était une curiosité. En même temps... Il y avait un peu une montée de Le Pen à l'époque et on ne voulait pas passer, surtout pour le patron de Champ du Monde, pour qui a quand même les droits de l'international, qui avait les droits de l'international, passer pour des néo-nazis. On a hésité longuement avant de le publier et en fait, ça fait un flop. Mais le bouquin est bien, quand même, je le conseille parce que c'est quelque chose de... Et Mark Bem est quand même un auteur assez intéressant. Bon, alors on a sorti 20 et quelques romans, 26 romans, et puis mon associé est mort, et à ce moment-là, on a vendu les droits, et puis, parce que j'étais absolument incapable de gérer une boîte comme ça, et mon autre associé aussi n'avait pas envie de se faire chier avec ça, donc on a laissé tomber. Ça a été une danseuse qui ne nous a jamais rapporté un centime. Bon, c'est vrai. Mais on a dépensé beaucoup en gueuletons pour préparer, les bouquins et rencontrer des auteurs.
Dernière question, Jean-Michel. Quelle est ta couverture de Néo préférée ? Alors, Howard ou pas Howard, si tu en as une.
S'il y en a une qui m'amuse beaucoup, c'est une couverture de Oxon, qui est La Maison au bord du monde, parce que c'est un bouquin quand même que j'aime beaucoup, Maison au bord du monde. Mais enfin, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Je l'ai conservé celle-là, La Maison au bord du monde. Mais il y en a deux, trois, comme par exemple Conan sur fond jaune, là, chez Lattès. Je l'aime bien, je garde ces trucs-là. Non, c'est-à-dire, c'est un peu le dernier truc qu'on fait qui nous plaît mieux, et puis au bout d'un moment, on s'en lasse. C'est un peu comme un collectionneur, moi qui suis très collectionneur, on m'a acheté un dessin, chaque fois qu'on passe devant, dans le couloir, tu vois, le truc, on regarde ce dessin en disant, putain, il est bien ce dessin, et tout. Et puis un jour, il disparaît. On ne le voit plus, il est au milieu des autres, on ne le voit plus. C'est un peu le dernier arrivant qui est le mieux. Et des fois, tu dis... Putain, mais comment j'ai fait ça? Je trouve que c'est pas mal fait et je suis pas sûr que je pourrais le refaire. Voilà. C'est l'intuition du moment qui est positive. Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais je ne peux pas dire ça, c'est ce que j'ai fait de mieux. Non, je peux dire quelque chose, si, à ce propos-là. Ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, c'est des trucs que personne n'a vu. C'est-à-dire, personne n'a vu. C'est-à-dire que mon galeriste a vu ça et m'a dit, je te l'achète. C'est des carnets. C'est des carnets qui ont 200 pages, dont je n'arrache jamais une page, c'est en tout en couleur, et je dessine par période dessus. Et voilà, c'est des rêves, c'est des fantasmes, c'est des choses. Je pense que c'est ce qui est plus vrai dans ce que j'ai fait. Et ça n'est pas en relation avec un texte, c'est en relation avec moi. Alors c'est très égocentrique, évidemment, c'est des sensations bizarres, mais je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux. Alors c'est, en fait, ça tient ces deux carnets qui sont épais comme ça, qui ont 200 pages. J'en ai déjà deux, il y a un troisième qui est blanc, prêt à être utilisé, mais je ne sais pas si je l'utiliserai. D'ailleurs, des carnets, c'est ce que j'ai fait de mieux.
Alors, allez, François, même question. De tous tes enfants géniaux, lequel est le plus beau ou lequel est le plus cher à ton cœur?
Oui, ben, je vais dire comme Jean-Michel, je ne sais vraiment pas. Bon, il y a les Howard, évidemment.
Ah, mais je vais parler des Howard. Hein. Tous les Howard. Il y en a un sur une île déserte, lequel emporte, un de tes recueils, lequel emporte-t-il?
Je serais bien embêté. Pour les personnages, ils sont tous pas tous pareils, mais enfin, moi, je les aime tous. Donc, il y a peut-être des nouvelles fantastiques. Peut-être le pacte noir ou les nouvelles fantastiques ultérieures, je me souviens plus dans les recueils que j'avais fait. Donc, mais enfin bon, c'est difficile.
Merci à tous les deux. J'ai adoré être ici. On va laisser maintenant la place aux questions si vous en avez. On a un petit peu de temps. Vous avez le droit de poser vos questions plus ou moins discrètes, plus ou moins discrètes. On a le droit de ne pas y répondre. On peut faire un joker. Monsieur là-bas, tu as une question?
Oui, pour François Truchot. Mon grand regret chez Neo, c'est de n'avoir jamais vu les nouvelles de western de Howard. À une exception près, dans La tombe du dragon
et
Doctor Grimes. Moi, j'ai lu tout ce qu'a fait en western Howard, je trouve que c'est ce qui est probablement le plus dur à traduire. Comment vous avez abordé ces nouvelles?
Oui, c'est bon, moi je les aimais bien. D'ailleurs, je me souviens, Patrice avait pas, j'avais mis ça au présent. Et Patrice n'avait pas aimé, il dit « Oh, ça va pas du tout au présent ». Je ne sais pas pourquoi.
Non, je sais que ça va pas du tout, mais c'était il y a très longtemps, ça. J'avais trouvé que ça passait bizarrement. Mais je reconnais que c'est un exercice, traduire ces nouvelles-là, qui doit être donc, extrêmement compliqué.
Oui, pour le reste, c'était un projet, si on avait aussi, Néo avait continué, il restait pratiquement plus que ça, hein, que les westerns, avec quelques nouvelles de boxe sur la boxe, choses comme ça, donc j'aurais peut-être attaqué le western, mais j'avais un peu d'hésitation, et je ne savais pas du tout comment le public français réagirait sur les westerns.
Je voudrais savoir, est-ce que vous nous parliez de La Reine de la Nuit était réédité?
Non. Je crois si, chez Rivage Noir, c'est dans la collection que dirige Guérif. Oui, si vous voulez, ça castagne, hein, c'est un bouquin qui est dur, hein, qui raconte qu'elles sont... lesbienne, évidemment, toutes les deux, et qu'elle se délecte à la lecture de Psychopathia sexualiste de Kraft et Bing, quoi. C'est un peu ça. Et en même temps, elle se marie, cette fameuse maîtresse d'Eva Braun, elle se marie avec le chef d'un camp de concentration. Et ça se termine, mais épouvantablement, dans la glace, etc. Enfin, à la libération, ça se passe très mal, quoi. Mais c'est vrai que c'est un cas, parce que Marc Bem avait des inédits, et on a discuté avec lui pour essayer de choper un truc étonnant, et c'était un des plus étonnants, mais dangereux, c'était un explosif, quoi, ce bouquin. Mais je pense que Guérif l'a réédité. Je n'ai pas vérifié. Hein. On lui a vendu les droits. Donc il en fait ce qu'il veut.
Une autre question ?
Question toute bête. Pourquoi chez Neo, on n'a pas retrouvé justement les Conan ? Ouais, je pense que c'est peut-être une question de droit de...
Comment ?
Les
Conan, oui.
Et est-ce que ça regrette votre peur que ça soit peut-être fait déjà, peut-être pas la totalité, mais une grande partie de...
Ah oui, évidemment, oui. Et si on avait, avec Jacques Vanner pour le Masque Fantastique, on avait le projet éventuellement d'éditer la série des Conan. Puis bon, comme la série s'est arrêtée, donc bon, c'est tombé à l'eau. Mais chez Oswald, nous, on n'a jamais abordé la question des Conan. Est-ce qu'il y avait déjà eu, je ne sais plus les dates, mais c'était déjà repris chez la thèse. Chez la thèse, donc ce n'était pas possible.
Et je sais que lorsque la collection Brage a commencé, une des choses que j'avais demandé à Brajlon, c'était de faire paraître le Conan 1, puis le Conan 2, et d'attendre un petit peu avant de faire paraître le Conan 3, et d'intercaler au milieu le Solomon Kane. Parce que justement, je voulais que les... C'était tout à fait calculé de ma part. Hein. Je voulais que les gens lisent Conan, parce que Conan, évidemment, c'est facile, c'est... Tout le monde le connaît, donc c'est très vendeur. Et évidemment, c'est les bouquins qui se vendent le mieux dans la collection. Et je voulais qu'entre le Conan 2 et le Conan 3, on leur donne autre chose pour qu'ils disent non pas « Ah, Conan, c'est génial », mais « Howard, c'est génial ». Et l'idée, c'était de faire ça. Et effectivement, bah, voilà, là, on est au troisième tirage de Solomon Kane. Et ça a permis... Pardon. Ça a permis justement aux gens d'aller tout de suite au-delà de Conan, de dire « Ah ouais, Conan, c'est bien, etc. » Mais il n'y a pas que ça. Et d'où après le pari de faire le Samarkand juste derrière, qui est un recueil de nouvelles non fantastiques. Le cinquième recueil chez Brajlon, qui ne publie que de la fantasy, etc., c'est de faire un recueil dans lequel il n'y a pas l'ombre d'un elfe, d'un goblin, d'un ce que vous voulez.
Je voulais savoir ce que vous pensiez des deux camps, et puis... Éditer quelques pastiches chez Neo un jour.
Ah non, chez Neo, on n'avait pas cette intention. Non, c'est-à-dire, je sais pas si vous avez lu ma préface à la biographie de Lovecraft par Sprague de Caen, et bon, bah, j'aurais fait les mêmes remarques, les mêmes critiques pour Howard, parce que j'avais lu ce qu'il avait écrit sur Howard, et il y a certains passages qui m'avaient scandalisé ou énervé. Donc je pense pas qu'on l'aurait fait. Pour Lovecraft, bon, ça allait, mais pour Howard, c'est pas possible.
Mais aussi, vous aviez dit que vous vouliez sortir des biographies de Howard, et ça, vous n'avez pas pu le faire. Et je me demandais si on pouvait s'attendre à le voir dans une autre édition maintenant.
C'est une biographie...
Le bouquin de Wayne Fry, je pense.
Ah oui, non, oui, ça, je sais pas. Bon. Ah oui, parce que c'est un très beau bouquin, mais c'est un très beau bouquin, mais je ne sais pas si quelqu'un le fera un jour.
Alors, je vais faire une réponse à mon voilé. donc, Novalyn Price a écrit un... Alors, ce n'est pas une biographie, c'est un livre de souvenirs sur les deux années où elle est sortie, enfin, il y a une relation avec Howard. Elle a écrit un livre qui s'appelle One Walk Alone, qui est un livre absolument essentiel à toute personne qui voudrait connaître Howard. C'est vraiment Howard au quotidien, c'est leur histoire d'amour, leur discussion, etc. C'est un livre absolument indispensable qui est paru il y a 30 ans aux États-Unis et qui est un livre en fait parce que Novalyn tenait un journal intime à l'époque et donc elle notait tous les soirs ce qu'elle avait vécu durant la journée en essayant de retranscrire les conversations. Donc, ce qui fait qu'elle a retrouvé ce journal, enfin elle l'avait toujours conservé et 50 ans plus tard, suite à justement à la biographie de Sprague de Camp, qui l'a scandalisé, elle a dit « Mais non, vous n'avez absolument pas compris qui était Howard, je vais vous dire qui était Howard, et donc je vais faire paraître mon journal. » Et donc elle a pris son journal et elle en a tiré la matière de ce qu'est devenu ce bouquin-là, en essayant de ne pas se corriger elle-même, de reprendre, de se repositionner telle qu'elle était en 1934, 35 et 36. Le bouquin est toujours disponible aux États-Unis, il n'est jamais paru en France. Donc, une chose qui m'intéressait, c'est d'avoir accès en fait, au journal de Novalyn Price, l'original, et pas le texte, parce que la version avait été coupée déjà par Donald Grant, l'éditeur américain, qui avait fait des coupes. Évidemment, ce n'est pas l'original du journal. On ne sait pas si l'original existe, mais, et c'est là que je vais devenir un petit peu évasif, disons que je suis en contact avec le fils de Novalyn, que j'ai rencontré l'an dernier au Texas, et que il se peut qu'il y ait des choses qui se fassent en France. bien assez proche. Voilà. D'autres questions ?
Vous pouvez nous parler un petit peu des préfaces que vous écriviez pour Howard, ce qui est pour nous une, une façon de savoir qui était la personne au-delà des textes. Vous récupériez les informations comment ? Comment vous écriviez ça ?
Sous l'inspiration du moment, non, je ne sais pas. C'est, je sais que j'écrivais mes préfaces très, très vite, très rapidement. Donc, je ne sais pas, non, ça, non, je n'avais pas d'informations particulières. C'est, je me basais sur les textes, et puis sur les nouvelles, et puis j'essayais de trouver quelque chose sur chaque nouvelle. Donc, non, moi, je n'avais pas d'informations particulières.
Je pense qu'on a tous été emballés par tes préfaces parce que elles étaient, il y avait une passion qui était communiquée qui était juste incroyable. Il y avait une, deux, trois questions, on y va dans...
Une question à M. Nicolet. Est-ce qu'un jour, bon, c'est peut-être déjà un projet, il y aura un livre en arbouche, justement, de cette couverture merveilleuse que tu sur le chaîne ?
Si, il existe déjà. Ça s'appelle Néo. C'est un livre qui a été tiré à 450 exemplaires. Ouais, et Jacques, il y a une couverture, il y a un emboîtage cartonné, etc.
Ça sera un tirage plus grand public ?
Non, mais moi, je ne suis pas pour les tirages grand public. Non, il s'est vendu, je ne vous cache pas, c'est le bouquin qui s'est vendu le plus rapidement, même avec 450 exemplaires. Il s'est vendu en 2 mois. Donc, écoutez, 95 euros. C'est un coup de poker qui a été très bien réussi. Le problème maintenant, c'est que vous le trouvez à 500 euros. Quoi. Voilà. Mais il y a toutes les couvertures, même des inédits. Évidemment. Et il n'y a pas de commentaires. Il y a une préface d'Hélène Oswald et une postface de moi-même qui dit à peu près la même chose. On ne s'est pas consulté. Mais qui raconte à peu près la même chose.
Et il porte un nom, ce livre ?
Néo. Néo. Chez Zampano, éditeur. Sans M après, avant le P. Voilà.
Merci.
Comme ça.
Oui.
Donc, vu le volume de Néo, je pense que vous n'aviez pas beaucoup de temps pour travailler, etc. Est-ce que vous êtes arrivé au moins une fois de partir sur quelque chose, de vous dire j'aurais pas dû me lancer là-dedans et de pas avoir le temps de changer de waquet ?
Bon, il y a des trucs que j'ai fait qui ne m'ont pas emballé, je reconnais, j'aurais peut-être pu faire mieux ou j'aurais pas pu faire mieux. Le problème, c'est qu'il y a une question de temps, c'est vrai, dans le domaine de l'illustration, on est obligé de fournir. C'est un peu comme la bande dessinée, on est obligé de fournir dans la bande dessinée. Et on ne vous donne pas un délai en disant quand tu pourras, tu me le feras. Si maintenant, là on propose de faire une couverture d'une plaquette, d'un truc, du quand tu pourras. Ce qui fait que je ne le fais pas. Je recule. Alors que, bon, bah, on réussit. C'est un peu comme un chanteur, c'est comme un musicien. Quand on fait du blues, par exemple, on peut être très bon un jour et pas très bon le lendemain. Ça dépend du moment, ça dépend de l'instant. Donc, voilà. Je regrette rien. Il y a des trucs que j'aurais pu m'abstenir, mais tant pis, hein, c'est comme ça. C'est comme ça.
Une autre question ? Vous en avez plusieurs ? Oui ?
Juste une petite question complémentaire par rapport aux détails techniques que tu as donné tout à l'heure. Compte tenu des œuvres qu'on voit notamment exposées en bas, je voulais savoir si, que ce soit Néo ou pour la thèse, il y avait toujours un peu le même type de format qui était utilisé, ou bien si ça variait éventuellement un petit peu, ou vraiment s'il fallait s'y tenir.
Chez Néo, il y a trois formats. Au début, Néo, c'est des petits formats. On peut voir le pacte noir, c'est un petit format. À l'époque, quand je travaillais chez Gallimard, etc., il y avait pas mal de commandes, etc. J'ai des formats qui n'étaient pas des agrandissements formidables pour des livres de poche. Et puis, après, j'ai agrandi parce que Je me suis dit, c'est dommage, c'est mieux comme ça. J'aurais tendance maintenant à faire encore plus grand quand je fais quelque chose, mais je ne fais plus sur Néo, puis ça n'existe plus. Mais quand je fais des couvertures, j'ai tendance à les faire plus grandes. Pourquoi ? En me disant, je peux faire une expo et c'est quand même mieux quoi, que des petits machins. J'étais vraiment dans le monde illustratif. Maintenant, je pinaille dans un monde qui est plus pictural qu'illustratif, tout en restant anecdotique d'ailleurs. C'est pour ça que les formats, oui, il y a différents formats. Par exemple, c'était l'autre collection chez Néo Plus. C'est un autre format. C'est une espèce de plaisir de fabriquer des formats avec lesquels on fonctionne en disant « ça sera bien quand on sera tout étalé comme ça ». Je suis un maniaque, quoi, c'est tout. Mais je jamais... Puis en plus, il y a un format, pour une raison très simple, il y a le format du livre. Donc il faut qu'il y ait de la marge en plus, enfin pour que les choses soient massicotées après. Bon, il y a ces espèces d'effets techniques, ce cahier des charges qui est important pour laisser la place pour le titre, ce qui n'est pas le cas chez la thèse, par exemple, où l'image était fermée dans un cadre, donc c'était différent. Bon, voilà, on fabrique des collections. Ce qui m'a amusé, c'est de fabriquer des collections. Et pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune, je voyais Brantôme, je voyais les bouquins de Gourdon, illustrés par Gourdon. Je savais que c'était très mal payé, etc. Et que c'était pas bon. Mais j'ai Fleuve Noir, tout ça. Et je me disais, c'est bien un mec qui fait toutes les couvertures. Et c'est pour ça que Néo, ben, ils sont restés dans cet esprit-là. Et j'ai dit, OK. Après, la thèse est venue me voir peu de temps après, en me disant ça serait bien que, et donc voilà. Et puis après, pour terminer mon parcours, c'est Gère de Poule qui est venu en disant ben, ça serait bien. Au début, on était trois dessinateurs à Gère de Poule, et puis après, on m'a dit ben non, finalement, c'est toi qui vas les faire. Bon, j'ai foutu à la porte un peu mes collègues, mais qui n'étaient pas du tout des spécialistes du fantastique. Et puis après, après Gère de Poule, on m'a proposé de monter une collection aussi de fantastique. Alors ça n'a pas du tout marché, on a dû faire trois titres. Et puis non, ça y est, la chose était usée, quoi. Et c'est pas du tout comme Gourdon et Brantôme qui ont fait ça pendant des années, des années, des années. Les choses sont consommées de manière différente. Et très vite digéré, quoi.
On a le temps pour, je crois, encore... Allez, une question, deux maxi, une, quelqu'un d'autre, une, deux, allez, deux, et après, on boucle.
J'ai vu avec beaucoup de plaisir tout à l'heure la couverture de Costigan le champion, si je ne me trompe pas. C'est le renvoi Costigan déjà sur un lit,
ouais.
Qui m'a toujours beaucoup impressionné. Dans votre style... Enfin, sur toutes les autres couvertures, c'est assez stylisé. Là, il est plus réaliste.
Oui. Oui. Parce que c'est à partir d'un document photographique.
Voilà.
Je reconnais. J'aime bien styliser un peu les choses, mais j'aime bien de temps en temps m'amuser. Et c'était l'intérêt de Néo, c'était justement de pouvoir passer d'un truc et pas d'avoir cette linéarité de fabrication toujours la même. En disant, ben là, je suis dans un esprit, tiens, je vais essayer un autre truc, quoi.
Et Elbora, qui arrivait, c'était au contraire très, très stylisé.
Très stylisé, oui. Des aplats, des choses... Oui, tout à fait. Il y en a qui étaient stylisés, d'autres moins. Comme quoi, dans une collection, c'est quand même la forme qui... Le tracé géométrique, si je puis dire, de l'illustration qui compte. Après, le reste, on peut broder. S'il y avait eu 15 ou 20 illustrateurs sur le truc, ça aurait été pareil. On donnait un diagramme, et puis en fonction de ce diagramme, on pouvait faire dessiner d'autres gens, quoi. Mais là, égoïstement, je voulais c'était bien que je fasse toutes les couvertures, tout simplement.
Une dernière question.
Ça rejoint un petit peu. C'était clair depuis le début, en fait, que c'était vous qui feriez toutes les couvertures.
Bah oui, hein.
Oui.
C'était une affaire. C'était un peu des restants de trucs vieillots, quoi, de trucs qui ne sont plus faits, en fait. D'avoir cette espèce de monopole de couverture.
Et quand le rythme de publication s'est accéléré, c'était toujours clair aussi, ou est-ce qu'il y a un moment où il y a
eu... Non, il n'y a eu qu'une fois, il y a eu une couverture que je n'ai pas faite, c'était Kellec qui l'a fait, qui était ma femme à l'époque, et pourquoi ? Parce que j'avais une crise de colique néphrétique terrible et je ne pouvais pas dessiner. Donc, il m'a dit, bon, c'est pas grave, je vais la faire. Et elle est très différente d'ailleurs des autres, mais j'ai téléphoné, j'ai dit, je ne pourrais pas la faire, je suis malade. Et j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Voilà, elle est allée porter son dessin, puis voilà. Non, c'est marrant.
Bien, il me reste à remercier d'abord mes invités et puis tout le monde à la salle pour cette longue mais passionnante intervention de François Truchot et Jean-Michel Nicolet. Merci beaucoup. On va prendre 10 minutes de pause, après on va rester un petit quart d'heure avec François. Ah oui, comment il devait partir.
Ah, non.
Voilà, merci beaucoup de votre attention.